Jean-Paul Pitchy.
Bonjour, moins de Neuchâtelois que d'habitude poussent la porte d'un fitness en ce mois de janvier. Les règles Covid freinent les bonnes résolutions, exemple au fitness Maréchal à Montrue à Neuchâtel. Très exposées au coronavirus, les crèches neuchâteloises se trouvent dans une situation préoccupante. Entre contagion et mesures d'isolement, certaines ont dû ces dernières semaines faire face à l'absence d'un tiers de leur personnel. Trois non et un oui pour les votations du 13 février. C'est ce qui ressort d'un sondage Tamedia publié aujourd'hui. Décryptage de ces dernières tendances dans ce journal. Le temps s'annonce bien ensoleillé avec des températures froides. Il fera entre moins 2 et 2 degrés cet après-midi sous un régime de bise. Les mesures Covid mettent un frein aux bonnes résolutions. Les Neuchâtelois sont moins nombreux que d'habitude à franchir la porte des fitness en ce début d'année. La règle de la 2G avec masque ou de la 2G+, en retient certains. Le fitness Maréchal à Montrue à Neuchâtel en fait l'expérience. Alors que la salle enregistre 5 à 6 nouvelles souscriptions par semaine en janvier, les nouveaux clients se comptent cette année sur les doigts d'une main. Mais cette érosion de la clientèle a commencé bien avant. Chantal Nicolet, associée à 50% au fitness Maréchal.
Depuis le 13 septembre, le certificat est obligatoire. Donc là, on a déjà vu une baisse de fréquentation. Depuis le 19 décembre, on nous a rajouté la 2G. On a pu choisir quand même 2G+, ou 2G normal. Et c'est vrai qu'on est obligé d'être masqué pour s'entraîner. Donc on a encore une petite chute de fréquentation. Et c'est difficile parce que nous, les gens y viennent beaucoup depuis octobre jusqu'à avril. Donc c'est vrai que ce début d'année n'est pas facile. Par rapport à une année normale, on a perdu à peu près 30% de nos clients encore aujourd'hui.
Combien de personnes vous avez habituellement ?
En général, on tourne à peu près à 350 clients par année. Et puis là, cette année, on est à peu près 210 clients.
À l'exception des fidèles du fitness Maréchal, les clients ont aussi tendance à privilégier les abonnements de courte durée, selon Chantal Nicolet. Quant au port du masque, il peut conduire certains sportifs à réduire la voilure durant l'effort. La triathlète de Presles, Carole Perrault, était à l'entraînement ce matin.
Maintenant que je recommence après la pause Covid, je ne sais pas si c'est le masque ou si c'est le Covid, mais c'est vrai que l'essoufflement est un peu différent. Mais en particulier, moi, je m'adapte et puis je ne veux pas faire la difficile, mais enfin, on suit les règles depuis quelques années maintenant, alors on fait avec.
Mais vous sentez une différence aussi dans l'énergie que vous mettez dans l'entraînement? Vous réfrénez un tout petit peu pour être un peu moins essoufflé ou pas forcément?
Bon, on n'a fait que de devoir s'adapter, alors c'en est une de plus, hein, d'adaptation. Mais le masque, peut-être oui, ça retient quand même vraiment l'air. Après, je ne me mets pas à tourner ou... Il n'y a pas des gros symptômes, mais c'est vrai que c'est plus agréable sans, avec de l'air frais qui nous vient dessus.
Un dossier réalisé par Sonia Bernauer-Milla. Les crèches neuchâteloises sont loin d'être épargnées par la cinquième vague de Covid-19. Réunies avec les autorités ce matin dans le cadre de leur séance de crise bimensuelle, les représentantes de l'ANDIP, l'association neuchâteloise des institutions pré- et parascolaires, dépeignent une situation tendue. C'est le cas en particulier dans le domaine du personnel très exposé à la contagion. En fait, Julien Hirtz, c'est le même phénomène qu'on observe dans la plupart des secteurs.
Oui, avec le variant Omicron, le nombre d'infections explose, mais également les cas contacts et les quarantaines. À cela s'ajoute la difficulté d'obtenir un rendez-vous pour un test et les délais pour obtenir les résultats. Une éducatrice peut donc manquer le travail jusqu'à une semaine sans présenter de symptômes. Selon l'ANDIP, dans certaines institutions, jusqu'à un tiers du personnel a été mis à l'arrêt. Résultat, des structures pré- ou parascolaires ont dû fermer temporairement, faute de solution. 2 ou 3 cas par semaine en moyenne depuis la rentrée, selon l'Office des structures d'accueil extra-familial. L'État a également la possibilité d'autoriser la réduction des heures d'ouverture. Pour faire face, l'Office des structures d'accueil avait mis en place un pool de remplacement, mais celui-ci n'est plus mis à jour. Certaines directions jonglent donc avec les horaires de travail à l'interne ou constituent leur propre liste de remplaçants. Et désormais, certaines structures préfèrent signer des contrats à durée déterminée avec, indéterminée avec des collaborateurs. Une manière d'affronter cette période perturbée tout en garantissant une certaine stabilité dans le personnel. Des communes collaborent par ailleurs avec des structures privées pour pallier les carences de personnel. Et ça, c'est représentatif de la période que l'on traverse. Il y a de la solidarité. Exemple, des parents acceptent de réduire les horaires de garde de leurs enfants afin de maintenir la qualité des services. Ironiquement, le fait qu'un grand nombre d'enfants soient eux-mêmes malades en ce moment allège un peu la pression. Reste que les rocades de personnel ainsi que les changements constants de règles sanitaires minent le moral des professionnels qui souhaiteraient pouvoir consacrer davantage de temps au bien-être des enfants. Après la vague du Covid, une vague d'épuisement psychologique pointe peut-être le bout de son nez, selon l'ANDIP.
Merci Julien pour cet éclairage que vous retrouvez sur rtn.ch. La semaine dernière, la Fédération suisse pour l'accueil de jour de l'enfant a réclamé soutien et compréhension de la part des parents et employeurs face à cette situation. Elle demande également de pouvoir réduire les horaires des crèches pour éviter des fermetures. Le service des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel met en place une nouvelle offre de cours subventionnée. Elle s'adresse aux accompagnateurs d'élèves conducteurs. L'objectif est de se former pour bien former, précise aujourd'hui le SCAN dans un communiqué. Le cours est composé de 3 séances de 45 minutes avec de la pratique et est soutenu à hauteur de 100 francs. Une initiative similaire est déjà mise en œuvre dans les cantons du Valais et de Genève. Mora retrouve ses lumières. Le festival a commencé mercredi soir et se poursuivra jusqu'à la fin du mois. Lors de sa 5e édition en 2020, la manifestation avait attiré plus de 90 000 personnes. Même si cette année le nombre de spectateurs par soir est limité, c'est avec bonheur que le tourisme local renoue avec cette tradition. Les organisateurs décrivent l'événement comme un véritable aimant dans une période d'habitude creuse. Lucas Schild, responsable opérationnel du Festival des Lumières de Mora.
Pourquoi faire quelque chose en hiver? C'est parce que Mora, on le connaît avec son lac en été, on a la chance d'avoir beaucoup de visiteurs. Mais l'hiver, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là, plusieurs années en arrière, cette décision a été prise. On veut faire quelque chose durant cette période plus sombre. Et quoi de mieux que d'amener de la lumière? Et avec cette année, avec ces mesures qu'on a eues avec le Covid, ça nous a permis d'être très créatifs. On a lancé beaucoup de nouveaux projets, comme un circuit secret Mora Lumière. Plein de projets qui permettent d'amener du monde à Mora en hiver. Et puis notre but, c'est clairement, c'est amener quelque chose pour la région, pour les gastronomes, les commerçants, les partenaires aussi du festival. C'est notre but exactement.
Le Festival des Lumières est ouvert tous les soirs. Pour pouvoir y accéder, il faut réserver un ticket en ligne, présenter un certificat de G et porter un masque. Un oui et trois non, c'est le verdict qui pourrait sortir des urnes le 13 février si les électeurs suisses votent comme le prédisent les sondages. Ce devrait être oui à l'initiative Enfants sans tabac, même si le soutien s'érode. Non très net à l'autre initiative populaire qui veut interdire les expérimentations animales. Non aussi aux deux lois combattues par référendum. Le soutien aux médias et l'abolition du droit de timbre d'émission. C'est le soutien aux médias qui paraît être le plus indécis à 3 semaines de la votation. L'analyse à Berne de notre correspondant Serge Jubin.
Les résultats de 3 sondages ont été publiés, le 3e ce vendredi du groupe Tamedia. Un 4e sondage SSR arrivera encore ces prochains jours. Les regards se focalisent sur le soutien aux médias, objet le plus disputé. Les sondeurs ne sont pas d'accord sur l'issue du vote. Le sondage SSR GFS Berne donnait début janvier un match nul, 48% pour, 48% contre. Tamedia a toujours donné le non gagnant, 51% il y a 3 semaines, 57% de non aujourd'hui contre 39% de oui. Ce sera l'objet à suspense du 13 février, avec, à 3 semaines du scrutin, une tendance donc au rejet. Les choses paraissent plus claires pour les 3 autres objets. Le oui à l'initiative qui veut interdire toute publicité pour les produits du tabac visibles des enfants et des jeunes est solide, même s'il s'érode, comme c'est la coutume avec les initiatives. Le oui était à 73% pour le premier sondage SSR, 67% pour le premier Tamedia et 62% aujourd'hui pour la deuxième enquête. Les femmes et la Suisse romande sont les plus favorables à ce texte. Si le sort de l'initiative qui veut interdire l'expérimentation animale est jetée avec désormais plus de 70% de non, l'abolition du droit de timbre d'émission, combattue par un référendum de la gauche, est loin de la majorité. Le sondage SSR lui donne 42% de oui, Tamedia seulement 32%. Il y a encore beaucoup d'indécis concernant cet objet financier technique. Faute de compréhension claire de l'enjeu, ces indécis risquent de passer dans les rangs des adversaires. L'un des paramètres d'analyse de la votation du 13 février, ce sera la participation exceptionnellement élevée lors des rendez-vous de 2021. On pressent un recul le 13 février, faute d'objets très mobilisateurs. Cela pourrait avoir un impact que les sondages ne modélisent pas.
Le référendum sur le droit de timbre d'émission est effectivement assez technique. En Suisse, si une entreprise doit s'acquitter de cet impôt lorsqu'elle lève des fonds propres, que ce soit lors de sa fondation ou de l'augmentation de son capital, il s'élève à 1% des fonds levés qui dépassent le 1 000 000 de francs. Cet impôt existe depuis 1918 et rapporte en moyenne 250 millions de francs par année à la Confédération. Pour les partisans de son abolition, le droit de timbre est injuste et entrave l'innovation en Suisse. Stéphane Chauffa, avocat et notaire de Châtelois, partisan pourtant de sa suppression, n'est pas aussi affirmatif.
Est-ce qu'elle renonce vraiment? Je ne suis pas persuadé qu'elle renonce véritablement à augmenter dans ce cadre, dans ce contexte-là, puisque finalement les investissements vont primer le paiement de cette taxe. Par contre, au niveau de l'attractivité, quand on sait que finalement, il y a différentes révisions qui vont notamment avoir lieu dans le cadre de l'OCDE ou la Suisse. On a vu par le passé également certaines pressions qui s'exerçaient désormais sur la Suisse, qui pouvait être considérée comme un paradis fiscal pour certaines entreprises. Ben, dans ce contexte-là, de réviser la fiscalité suisse me paraît important pour conserver cette attractivité et qui, cas échéant, pourrait, je dirais, à un moment donné, faire pencher la balance pour une entreprise plutôt que de venir s'installer ici en Suisse.
Pour le Conseil national socialiste neuchâtelois, Baptiste Urny, brandir le spectre d'une place financière qui perdrait en attractivité en raison de ce droit de timbre n'est pas crédible.
C'est 1%, c'est-à-dire que c'est 10 000 francs par tranche de 1 million de capital, donc on est sur un impôt très faible. Et puis ensuite, la théorie qui veut dire que peut-être que la place suisse, qui aujourd'hui est une des plus attractives au monde, le serait un peu moins et que par anticipation, il faut supprimer une taxe qui de toute façon n'est aujourd'hui pas rédhibitoire, ça me paraît très tiré par les cheveux. En revanche, ce qui est sûr et ce qui n'est pas des hypothèses et des « si la législation change, etc. », c'est qu'on perdra 250 millions de francs par année. Et 250 millions de francs par année, c'est par exemple 8 fois ce que met la Confédération pour ouvrir des crèches. C'est le quart de ce qu'on demande à l'effort des femmes dans la révision de l'AVS. C'est des montants qui sont extrêmement importants et dont la collectivité a besoin, et encore plus besoin aujourd'hui, quand on est en train de sortir, enfin j'espère, de sortir de cette crise du coronavirus, et où on sait bien qu'il y a des secteurs économiques qui auront encore besoin de soutien. Ces soutiens, il faut les payer, et pour les payer, il faut que l'État il ait aussi des rentrées.
Baptiste Urny et Stéphane Chauffat ont débattu du droit de timbre ce matin dans la matinale, à retrouver en vidéo et en intégralité sur rtn.ch. En bref, le chanteur de rock américain Meatloaf est décédé à l'âge de 74 ans. Annonce faite ce matin, il est devenu célèbre dans les années 70 et a notamment produit un des albums de rock les plus vendus de tous les temps. Meatloaf s'est également fait connaître au cinéma. Il est notamment apparu dans le film Fight Club. Et on termine avec du ski alpin et la première descente de Coupe du Monde de Kitzbühel. Elle a commencé à 11h30 ce matin avec un départ abaissé à cause du vent. Pour l'instant, c'est le Norvégien Alexander Kilde qui mène le bal devant le surprenant Français Johan Claret et l'Autrichien Matthias Mayer. Le Suisse Marco Odermatt est provisoirement quatrième alors que Beat Feuz s'affiche au sixième rang. Bon appétit, bel après-midi.